yours a heart attack.
Il est 5h en temps universel, 7h ici à Paris.
Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Ce vendredi 1er mai, c'est donc la fête du travail et l'occasion évidemment dans différents pays de faire le point sur les combats sociaux. On va y revenir tout au long de ce RFI matin. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal sera notre invité dans trois quarts d'heure. Et puis en France, faut-il donner à davantage de secteurs l'autorisation de faire travailler des employés en ce jour traditionnellement chômé ? Le débat est lancé. On va y revenir juste après le journal international. Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Clotilde Dumais. À la une, de nouvelles frappes israéliennes et 17 morts de plus dans le sud du Liban hier. Le cessez-le-feu toujours aussi relatif. Alors que l'ambassadeur américain à Beyrouth appelle à une rencontre entre les dirigeants des deux pays, du côté de Téhéran, les gardiens de la révolution menacent d'une riposte douloureuse en cas de nouvelles attaques contre l'Iran. Et le conflit au Moyen-Orient pousse l'Égypte à sécuriser ses stocks de blé. Reportage à suivre près du Caire, où les agriculteurs ont commencé la récolte. En Argentine, la promesse d'un conflit social plus dur. À la veille du 1er mai, le principal syndicat du pays, la CGT, a haussé le ton hier face à la politique ultralibérale du président Javier Milei. Dans ce journal également, l'entrée en vigueur provisoire de l'accord UE-Mercosur aujourd'hui contre l'avis du Parlement européen. Et puis en RDC, une asymétrie technologique en défaveur de l'armée dans le conflit contre le groupe AFC M23. Des rapports parlementaires font état de difficultés pour Kinshasa dans les airs et sur les ondes.
Le Liban est un tournant.
Et son peuple a l'occasion historique de reprendre en main son pays. Les mots de l'ambassadeur américain à Beyrouth pour appeler à une rencontre entre le président Joseph Aoun et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une réunion directe permettrait selon lui au Liban d'obtenir des garanties tangibles, notamment sur sa pleine souveraineté et son intégrité territoriale. Mais en attendant, le cessez-le-feu prolongé la semaine dernière reste très relatif. De nouvelles frappes israéliennes ont tué 17 personnes hier, dont au moins 5 femmes et 2 enfants. L'armée israélienne poursuit aussi sa destruction méthodique de villages dans la zone de sécurité de 10 km qu'elle s'est ménagée dans le sud du pays. Et le Hezbollah poursuit de son côté ses tirs de roquettes en direction d'Israël. Nombreux sont donc les habitants du sud Liban encore empêchés de rentrer chez eux, d'autant qu'ils font face à un autre danger, Alice Froussard, celui des munitions non explosées.
C'est une estimation globale. 10% des munitions utilisées dans un conflit n'explosent pas. On parle alors de pollution explosive dangereuse pour les populations jusqu'à des dizaines d'années après. Glenn Derien est spécialiste de la réduction de la violence armée pour Handicap International au Proche-Orient.
Du coup, c'est un gros problème au sud du Liban où on nous avait reporté déjà le fait qu'il y avait des parents qui s'inquiétaient du fait que leurs enfants puissent tomber sur des engins explosifs qui pourraient être présents dans des endroits où ils jouent, sur le fait qu'il y avait beaucoup de fermiers qui soit avaient peur et ne pouvaient pas accéder à leurs champs agricoles. Parfois, du fait de leur situation économique, ils n'ont pas le choix que de continuer à cultiver une terre qui est peut-être contaminée par des engins explosifs.
Parfois, les munitions non explosées se trouvent dans des zones essentielles, comme des points d'eau ou encore des champs utilisés pour faire paître les troupeaux. Au sud du Liban, il restait déjà des munitions de 2006, de 2024. Alors avec cette nouvelle guerre, il y a de nouvelles contaminations.
Il faut savoir que les populations qui sont déplacées, lorsqu'elles commencent déjà à retourner dans les zones qui ont été impactées par le conflit, elles ne sauront pas où se trouveront la nouvelle contamination explosive.
Les équipes humanitaires doivent alors y avoir accès pour agir selon un ordre de priorité pour dépolluer les terres de ces munitions. Elles mettent en place aussi des sessions d'éducation pour les populations civiles afin d'avoir les bons réflexes et éviter les accidents.
Alice Froussard.
Du côté de l'Iran, une situation de nouveau normale à Téhéran ce matin.
Après l'entrée en action dans la soirée d'hier de la défense antiaérienne contre des petits avions et des drones de reconnaissance au-dessus de la capitale iranienne, Israël prévient qu'il pourrait devoir agir de nouveau en Iran et l'agence Reuters affirme ce matin que Donald Trump étudierait le scénario de nouvelles frappes sur le pays, alors qu'à partir d'aujourd'hui, le président américain devrait en théorie obtenir l'aval du Congrès pour poursuivre son intervention selon la Constitution. Le gouvernement Trump a déjà fait savoir qu'il ne comptait pas appliquer cette règle.
Et de son côté, Téhéran continue de défier les États-Unis.
Le guide suprême iranien Mojtaba Ramenei a évoqué hier une défaite honteuse des Américains et les gardiens de la Révolution préviennent que la moindre attaque de leurs ennemis, même brève, entraînerait une riposte douloureuse. Les prix du pétrole ont de nouveau bondi hier avec un baril de Brent à plus de $126 au plus haut, des niveaux jamais vus depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine.
L'instabilité sur les marchés mondiaux qui ne concerne d'ailleurs pas que le pétrole ou le gaz.
Les difficultés d'approvisionnement sont signalées dans une moindre mesure sur d'autres produits et c'est ainsi que l'Égypte s'inquiète pour ses stocks de blé. L'État veut les sécuriser pour protéger la production de pain subventionné. Il compte pour cela sur la récolte locale débutée il y a quelques jours. Reportage au sud du Caire de notre correspondante Justine Babin.
Après une courte pause, les ouvriers d'Abdel Wahad Yahya se remettent au travail dans l'oasis de Fayoum. Courbés, ils moissonnent le blé à la faucille.
La moisson va durer une dizaine de jours pour les 5 hectares, à la main, pas à la machine, parce que le blé est couché. On cause les mauvaises conditions climatiques cette saison, les fortes pluies et le vent. Et ça a un impact sur les rendements d'environ un quart.
Malgré ses pertes, l'agriculteur s'en sort grâce au prix d'achat fixé par l'État, autour de $320 la tonne et aux subventions sur les fertilisants. Ce prix a été réévalué une première fois avant l'hiver pour encourager les agriculteurs à semer davantage et une seconde fois après le début de la guerre en Iran pour les convaincre de vendre à l'État plutôt qu'au secteur privé.
Le prix du gouvernement n'est pas mauvais, le paysan est gagnant. Par rapport à la betterave ou à la luzerne, le blé est plus rentable.
Mais pour les petits producteurs, la situation est plus difficile. Mohamed, qui cultive moins d'un demi-hectare, ne bénéficie pas des aides et consomme une partie de sa récolte.
L'heure de location de la machine de battage que l'on va utiliser aujourd'hui coûte 600 livres. Le sac de 50 kg de fertilisant est à 1400 livres. L'heure d'irrigation est à 200 livres. Le prix d'achat ne couvre pas ses coûts.
Comme beaucoup, il vendra malgré tout son surplus à l'État. Cette année, près de 10 millions de tonnes de blé sont attendues, dont les autorités espèrent collecter la moitié. Justine Babin, au Fayoum, RFI.
Dans ce journal également, Julien, une journée chaque année pour défendre les droits des travailleurs un peu partout dans le monde. Nous sommes, je le disais, le 1er mai.
Journée traditionnelle de défilé pour les syndicats qui a commencé avec un peu d'avance du côté de l'Argentine. La CGT, principale centrale syndicale du pays, appelait à manifester hier dans un contexte social tendu. La réforme de dérégulation du travail décidée par Javier Milei est contestée en justice. Et la politique d'austérité du président ultralibéral est accusée de détruire l'industrie du pays. Reportage à Buenos Aires de Théo Conscience.
À la veille du 1er mai, le cœur n'était pas à la fête pour les travailleurs rassemblés sur la place de mai à Buenos Aires. Ils sont en train de tuer l'industrie nationale, se lamente Jorge Cáceres, qui travaille dans une usine de biscuits.
Le gouvernement est en train d'anéantir les petites entreprises qui sont les moteurs qui font vivre les familles.
Depuis le début du plan d'austérité de Javier Milei fin 2023, 24 000 entreprises ont mis la clé sous la porte, soit une moyenne de 30 par jour. Marne Oliveira est délégué syndical dans une chaîne de supermarchés.
La consommation s'est effondrée, l'économie est en baisse, les entreprises arrêtent de produire et il y a de moins en moins d'emplois.
En 2 ans, près de 300 000 emplois ont été détruits. Moins d'emplois, moins de revenus pour les ménages qui doivent se serrer la ceinture, moins de consommation donc, et in fine, de nouvelles entreprises qui doivent fermer ou licencier.
C'est un cercle vicieux et si le gouvernement ne met pas en place des politiques pour soutenir les travailleurs et les employeurs, ça va être de pire en pire.
Pour l'ultralibéral Javier Milei, la solution passe au contraire par moins de régulation, moins d'impôts, moins d'aides publiques, en un mot, moins d'État. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et la CGT argentine qui promet de durcir les conflits sociaux, la patience est terminée, dit l'un de ses dirigeants, alors que le pays a déjà connu 4 grèves générales depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei en décembre 2023.
Cette mesure-là a de quoi ravir, en revanche, les agriculteurs argentins.
Et ceux de Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, le marché européen s'ouvre à leurs produits à partir de ce matin, car c'est en ce 1er mai qu'entre en vigueur l'application partielle et provisoire de l'accord de libre-échange UE-Mercosur, décidé à la surprise générale il y a 2 mois par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle avait choisi d'enjamber la décision du Parlement européen de saisir la justice pour vérifier la légalité du traité, décrié par plusieurs pays ainsi que par les agriculteurs européens et les défenseurs de l'environnement à Bruxelles. Pierre Benazet.
Une grande partie des députés européens reprochent à Ursula von der Leyen cette entrée en vigueur partielle de l'accord avec le Mercosur qu'elle s'était engagée devant eux à ne pas déclencher. La Commission a le droit de le faire parce qu'elle dispose de la compétence exclusive sur le commerce extérieur. Mais selon le député européen centriste Pascal Canfin, elle est allée un peu trop vite en besogne. Elle a pris une décision finalement très politique sans avoir verrouillé tous les aspects juridiques.
Ça a été une grande victoire que d'intégrer l'obligation d'avoir dans les accords commerciaux que nous signons une clause qui dit que le respect de l'accord de Paris est une clause essentielle. Or, l'Argentine ne respecte pas le seul caractère obligatoire de l'accord de Paris, à savoir le fait de mettre des engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des fameuses COP des Nations Unies. Et donc, juridiquement, on peut penser que l'entrée en vigueur provisoire du Mercosur avec l'Argentine est en rupture des obligations juridiques de la Commission.
Cet argument climatique pourrait déboucher sur une remise en cause de l'application provisoire avant même l'avis de la Cour de justice de l'UE, qui n'est pas attendu avant l'an prochain. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et en attendant, le commissaire européen au commerce salue une grande journée pour un accord historique.
Sur RFI, il est 6h10 à Kinshasa, des sanctions américaines contre Joseph Kabila.
Washington place l'ancien président de la République démocratique du Congo sur sa liste noire des personnes frappées de sanctions économiques. Joseph Kabila, accusé par les États-Unis de semer l'instabilité dans son pays en raison de son soutien au groupe armé AFC M23. On en reparle dans le journal Afrique, dans un peu moins d'une demi-heure.
Et concernant la guerre dans l'est de la RDC, l'armée congolaise défavorisée sur le plan technologique.
C'est ce qui ressort de 2 rapports parlementaires confidentiels que RFI a pu consulter. Le ministère de la Défense, auditionné par les élus, y décrit une asymétrie technologique face à l'adversaire, plus particulièrement sur les ondes et dans les airs, Patient Ligodi.
Les forces armées congolaises ont reçu des drones équipés des missiles. Mais auditionné par la commission défense de l'Assemblée nationale en décembre dernier, le ministre de la Défense a indiqué que l'adversaire, dit-il, s'est doté en retour d'équipements de brouillage et des systèmes antiaériens contre ces appareils, inversant parfois, selon ses propres termes, le rapport de force dans les airs. Sur les communications militaires, le même ministre a reconnu devant les élus que les messages des unités au front sont interceptés et décryptés, dit-il, par l'ennemi, rendant difficile la synchronisation des actions. Il a précisé que le pays devrait disposer de ses propres satellites militaires et n'en possède pas. À ce propos, Kinshasa travaille par ailleurs à l'acquisition d'un satellite, un projet estimé à 400 millions de dollars et à l'étude. Sur l'industrie d'armement, le ministre a rappelé aux députés l'existence de la société Afridex qui produisait des bombes artisanales.
Très tiré. Je n'étais rien ou bien quelque chose qui s'en rapproche. J'étais vain et c'est bien ce que contenaient mes poches. J'avais la haine, mélange de peur, d'ignorance et de gêne. Je pleuvais de peine, de l'inconsistance, de ne pas être moi-même. J'étais mort et tu m'as ramené à la vie. Je disais j'ai ou je n'ai pas. Tu m'as appris à dire je suis. Tu m'as dit le noir, l'arabe, le blanc ou le juif sont à l'homme ce que les fleurs sont à l'eau. Oh, toi que j'aimais, toi que j'aime. J'ai traversé tant d'avenues, tellement attendu ta venue qu'à ta vue je ne savais plus si c'était toi, si c'était moi, si c'était moi, si c'était toi. Et toi que j'aime, je créais ton nom dans le désert des villes que je traversais, car sûr de ton existence je savais que tu m'entendrais. Et toi que j'aime, oh toi que j'aime. Je n'étais rien ou bien quelque chose qui s'en rapproche. J'étais vain et c'est bien ce que contenaient mes poches. J'avais la haine, mélange de peur, d'ignorance et de gêne. Je pleuvais de peine, de l'inconsistance, de ne pas être moi-même. J'étais mort et tu m'as ramené à la vie. Je disais j'ai ou je n'ai pas. Tu m'as appris à dire je suis. Tu m'as dit le noir, l'arabe, le blanc ou le juif sont à l'homme ce que les fleurs sont à l'eau. Oh, toi que j'aime et toi que j'aime. Ni la rue ni les drames ne m'ont voilé à ta vue. Même au plus bas, même quand je me disais que tout était foutu, je t'aimais comme si je te voyais. Car si je ne te voyais pas, je savais que j'étais vu par toi. Et toi que j'aime, tu es un lion et ton cœur est un soleil, l'ultime secours de ceux perdus dans leur sommeil. Et toi que j'aime, oh toi que j'aime. Je n'étais rien ou bien quelque chose qui s'en rapproche. J'étais vain et c'est bien ce que contenaient mes poches. J'avais la haine, mélange de peur, d'ignorance et de gêne. Je pleuvais de peine, de l'inconsistance, de ne pas être moi-même. Tu es l'alchimiste de mon cœur. Et toi que j'aime, oh toi que j'aime. Et oh toi que j'aime.
Bad luck land, a story keeps bothering me. Concerning the woman and the man and this inequality. Man goes out drinking all night long, coming in. What's the matter with me? I'm gonna tell you, partner, so it's plain to see. I'm so tired. Lord, it's more than one woman can bear. Washing dishes, changing diapers, sweeping the floor. Why you putting on your clothes, walking out? Blue. Why you out singing?
À Louviers,
à Louviers,
sur le DAB+.
Sur le DAB+.